Il dit, nous avons vu le deuxième obstacle en ce qui concerne l'exaucement de la prière. Et on a intitulé ce sujet-là, frères offensés non réconciliés. Un grand problème. Dans des couples, sans par expérience, ça peut se passer à 50% sans heurte. Pardon et réconciliation. Ça sent dans le couple, on peut observer cette pratique à 50% sans pour autant qu'il y ait de soucis. Par contre, à l'extérieur, frères et sœurs, le sujet est assez costaud. On a souligné la fois passée que la réconciliation est recommandée dans la vie chrétienne. Elle est recommandée. Et le Seigneur parle même en cas de litige. Qu'est-ce que nous devons faire? On ne peut pas fabriquer nos propres solutions. Non, le Seigneur a tout prévu. En cas de litige, il conseille ce que nous devons faire. Comment nous devons nous comporter? Et on a dit, Christ est le seul capable de réaliser le pardon et la réconciliation authentique. Il n'y a que Christ. Et nous avons eu à illustrer cela à travers Joseph, avec ses frères. Parce que Joseph était le type de Christ. C'est pour cela que malgré tout ce qu'on lui a fait subir par ses frères les haïssaient, mais il a su pardonner et il a su parler dans le cœur de ses frères pour les tranquilliser. Parce qu'ils avaient déjà monté une stratégie. Ah, maintenant que notre père est mort, souvenez-vous, Ruben, de tout ce qu'on a fait à ces petits garçons, est-ce qu'il ne va pas se venger? Ils vont penser une stratégie pour faire dire que papa avait dit, mais on se calme, il n'en sera pas question. Je vais prendre soin de vous, de vos enfants, tout ce qui vous concerne, n'est-ce pas? Calmez-vous. Calmez-vous. Ça, c'est l'esprit de Christ. Un homme tout seul ne peut pas le faire parce que l'homme voit l'offense. L'offense qu'il a subie. Il s'est dit non. Le dégât est tellement important que ce n'est pas possible. C'est pour cela que nous pouvons entendre dire oui, je pardonnais, mais vous observez que la personne a encore la rancune dans son cœur. Comme j'ai donné l'exemple, ils étaient vraiment soudés. Maintenant, la personne s'est dit bon, qu'il reste dans son coin. Moi aussi dans son coin, je ne fais pas de problème. Et quand on sort de l'église directement, on file à l'anglaise parce qu'on ne veut pas croiser cette personne-là. Bonjour, bonjour. Et ça devient un bonjour mécanique. Vous observez ça ici dans la salle. On a prêché, on a terminé la prédication, mais vous allez voir des gens ici. Parce que moi, je fais toujours semblant, comme je l'ai dit la fois passée, je fais semblant comme je ne vois pas. Mais je vois. Je vois les têtes des gens. Je vois les sourires des gens. Sourires des magasins. Sourires d'hôtesse de l'air. Mais tout ça. Mais vous vous trompez. Vous croyez que vous allez tromper Dieu, qui sont le cœur et les pensées. Avant même que vous pensiez, avant même que vous ne parliez, lui, il sait. Tu es où? Tu te caches où? Alléluia. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut offre de pardon d'un côté, repentance de l'autre. Alléluia. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut offre de pardon d'un côté, repentance de l'autre. Voilà pourquoi nous avions dit, il est important de bien comprendre la différence qui existe entre pardon et réconciliation. Alléluia. Alors, je vous invite à vous lever pour ce soir. Nous allons lire dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Tout le monde y est? Vous savez, moi je n'aime pas être égoïste. J'aime toujours que nous puissions partager les bénédictions du Seigneur. C'est pour cela que je vous invite toujours à lire ensemble. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Vous voulez qu'on aille voir où est-ce que cela est écrit? Dans Apocalypse 1. Ça va? Très bien. C'est pour cela que je vous demande que nous puissions lire tous ensemble. Comme ça, nous partageons les bénédictions. Lisons. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mon Dieu, mon roi, mon créateur, je te dis merci parce que tu as permis que nous puissions être autour de ta table ce soir. Merci Père parce que tu as permis que nous puissions ouvrir cette parole et la lire. Mais papa, nous ne sommes pas capables de l'interpréter. Je te demande, toi, qui es le maître, l'auteur de cette parole, de venir maintenant l'interpréter dans chaque cœur et que moi, je ne sois qu'un instrument inutile, que tu utilises ma bouche, que tu puisses exercer ma langue pour que je puisse transmettre le message par l'aide du Saint-Esprit à ton peuple. Viens nous en aide. Que tu nous bénisses parce que nous sommes là. Tu vois dans quel décor nous allons travailler. Mais nous te disons merci parce que toi, tu as dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et voilà maintenant, nous t'invitons d'entrer en scène et nous t'avons prié dans le nom béni et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Très bien. Alors, asseyez-vous. À travers ces textes que nous venons de lire, cela va nous permettre d'aborder le troisième obstacle à l'exaucement de la prière. Amen. Alors, sa parole pour ce soir, Monsieur Fabrice, nous allons l'intituler « Le refus de pardonner ». Il faut bien suivre l'enchaînement. Les refus de pardonner. Le mercredi, il a été question. Frères offensés, non réconciliés. Ce soir, le troisième obstacle à l'exaucement de la prière, c'est le refus de pardonner. Alléluia. Le refus de pardonner. Nous avons défini le pardon la fois passée. Très bien. Mais avant que je n'entre dans les vifs de mon sujet, je voudrais me répéter sur un point. Je ne le dirai jamais assez pour que nous puissions saisir au moins l'importance de cette réalité. Vous savez, mes frères et sœurs, quand nous venons ici, nous ne venons pas pour vendre. Nous ne venons pas pour nous rencontrer. Nous ne venons pas pour voir quelqu'un. quel qu'il soit. Mais nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alors là, maintenant, vous devez saisir que prêcher n'est pas parler aux gens de la parole. Notez cette phrase. Prêcher n'est pas parler aux gens de la parole. Non, je ne suis pas dans cette optique-là. Bon, je ne comprends pas ça comme ça. Prêcher, c'est plutôt... Suivez-moi bien. Prêcher, c'est plutôt parler aux gens de ce que la parole dit d'eux. Je dois être dedans. Prêcher, c'est parler aux gens de ce que la parole dit de nous. C'est différent. Je ne sais pas si vous saisissez cette différence. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Sinon, on va vous raconter des histoires. J'ai été manger des frites, je suis revenu, et puis j'ai fait ceci, j'ai fait cela. À la fin, vous ne saisissez pas quelle a été l'interpellation de la parole, mais concernant. Hein? Attendez, vous allez dans un hôpital, et puis le médecin, il commence à te raconter, mais tu sais, on a été en voyage en Turquie, nous sommes revenus. Et toi, tu attends un diagnostic. Alléluia. Tu attends un diagnostic parce que un diagnostic bien posé, c'est déjà 50% de la solution de mon problème. Mais tu passes dans le cabinet du médecin, il te raconte mille et une histoires, et après tu dis, non, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, ça passera. Tu vas prendre des dafalgan. Waouh! Non. Ici, en tout cas, l'onction que j'ai reçue, moi, ce n'est pas pour venir frotter les manches des gens. Sinon, je dois m'asseoir. Pour moi, la prédication, prêcher, c'est parler aux gens de ce que la parole dit de nous. Qu'est-ce que la parole dit de nous? Moi, mon état, tel que je suis là. Regarde-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Il faut être dans cette disposition-là quand vous venez à l'église. Parce que vous êtes un chantier en construction chaque jour. Vous êtes en devenir. Nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, dans la lumière de ces jours. Donc on marche, on marche, on marche, on marche, on marche. Vous savez, à l'époque des apôtres, ce qui était en suspens, c'était la question du Messie. Ça va? C'était la question du Messie. C'est pour ça qu'il te posait toujours des questions. Mais est-ce que le Juif, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Donc les apôtres, chaque fois qu'ils prêchaient, c'est ramener les gens par rapport. Christ est effectivement le Messie qui a été promis. Il est là. Alors, toi et moi, maintenant là, nous attendons l'enlèvement, n'est-ce pas? Mais nous devons être dans les conditions telles qu'il a été prêché par le messager de cet âge. Ramener toutes choses comme autrefois. Alors il faut vivre une vie qui soit digne de l'évangile. Je suis désolé. Vous allez vous attendre à ce que... Ah, mais frère Albert, aujourd'hui, il a été doux. Et comme on me dit, ah, j'ai changé. J'ai dit à ses frères, frère Albert n'a pas changé. Seulement la dispensation a changé. Je lui ai donné... Va voir Paul dans les livres des Corinthiens. Je lui ai dit, lis. Il dit, ah oui, je peux comprendre. Oui, je dis oui, je n'ai pas changé. Il dit, mais oui,
ça fait toujours un débat. Quand nous, c'était, je dis, mais je n'ai pas changé. Ça, c'est mal me percevoir. Je n'ai pas changé.
Attends, quand on sème, ce n'est pas la même attitude que quand on va moissonner. Il faut faire cette différence.
Alors, la parole doit parler aux gens de ce qu'ils sont.
Alors, en ce moment-là, suivez-moi bien, en ce moment-là, la prédication ressemble à une opération, Bérénice, écoute-moi bien, à une opération chirurgicale sous l'onction du Saint-Esprit, bien sûr. Elle va localiser, inciser et retirer les infections causées par le péché.
Prenez-moi comme ça, c'est comme ça. Une autre manière, je ne la vois pas. Quand on doit dire aux gens ce qu'ils sont, et nous raconter des histoires de voyage, tout ce que vous voulez, la prédication va ressembler à une opération chirurgicale sous l'onction du Saint-Esprit, bien sûr. Elle va localiser d'abord le problème, inciser et retirer les infections causées par le péché. Et il est bon de savoir, mon frère, ma sœur, que le Saint-Esprit lutte avec nous sur la question du péché. Le Saint-Esprit lutte nuit et jour avec nous sur la question du péché. Dans quel but? Pour nous déloger dans nos refuges. Alléluia. Et c'est ici et maintenant, pas attendre demain. Ici et maintenant. C'est pour ça que le Saint-Esprit lutte avec nous par rapport au péché, pour que nous puissions sortir de nos refuges et reconnaître notre état afin de tendre vers la stature de l'homme parfait. Ce n'est pas... Ah, on a bien chanté, on a bien dansé. Moi, je ne m'inscris pas là-dedans. Rien du tout.
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ.
Le refus de pardonner. Mais avant de commenter ce verset-là, montons un peu au verset 31.
Écoutons ce que l'Esprit dit. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voyez-vous?
Donc les croyants doivent faire disparaître six vices. Comptez-les rapidement. Les croyants doivent faire disparaître six vices. Vous connaissez c'est quoi un vice, hein? Disposition habituelle au mal. C'est ça un vice. Alors l'Esprit vient, il faut que nous fassions disparaître ces choses-là.
Alléluia. Et plusieurs de ces vices sont repris encore dans Colossiens.
Colossiens 3, verset 8. Vous pouvez noter?
Vous voyez aussi ces vices dans Colossiens 3, verset 8. Pourquoi nous devons faire disparaître ces choses dans nos vies? C'est pour nous montrer que nous ne sommes pas parfaits. Alléluia.
Nous ne sommes pas parfaits. Et comme nous ne sommes pas parfaits, mais comment est-ce que la parole va nous travailler? Il faut que la parole parle de nous.
Vous pouvez commencer à esquiver, vous venez, vous endormez les gens, vous leur donnez des morphines pour qu'ils ne sentent rien, tout ça, tout ça. Mais frère, votre place n'est pas devant. Tu arrêtes ton cinéma. Tu arrêtes ton cinéma. Le Saint-Esprit lutte avec nous sur la question du péché. Alléluia. Pour nous déloger de nos campements, là où on se sent à l'aise. Non, le Saint-Esprit ne peut pas nous laisser à l'aise. Jamais. Jamais. Nous devons être conscients de cela. Le refus de pardonner. Alors, au verset 32 maintenant, nous revenons. Comme on doit faire disparaître ses vices, maintenant, verset 32, hein, l'Esprit parle de trois commandements positifs. Vous avez senti? Il vient de parler des vices. Et au verset 32, l'Esprit nous parle maintenant de trois commandements positifs. 1. Soyez bon. Alléluia. Ah, on ne va pas écrire, donc je laisse tomber. Normalement, le terme qui a été traduit en grec veut dire ce qui convient à un besoin. Soyez bon, le terme traduit en grec signifie ce qui convient à un besoin. Je ne peux pas écrire, je ne peux même pas le prononcer. Écrire, c'est mieux, comme ça tout le monde voit. Alléluia. Ce terme, c'est krestoi. Krestoi, C-H-R-E-S-T-O-I. Ce qui convient à un besoin. Soyez bon. Deuxième commandement positif, qu'est-ce qu'il dit? Soyez compatissant. Alléluia. Et 1 Pierre 3, 8 parle de cette conduite compatissante. 1 Pierre, regardons comment Pierre parle de ça. 1 Pierre 3, verset 8. Il dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, voyez-vous, et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Vous voyez le contexte? Soyez animés des mêmes pensées et de mêmes sentiments, c'est-à-dire quand mon frère souffre, je suis à même de sentir sa douleur. Alléluia. Je suis à même de pleurer avec mon frère. Je ne dis pas, oh, ouais, ça va. C'est bien fait pour lui parce que lui, il n'écoute pas. Alléluia. On lui dit de ne jamais fréquenter cette rue, mais lui, tout le temps, il passe par là. Non. Nul n'est parfait. Alléluia. Lui, comme sur ce point-là, il est faible. Sois compatissant. Alléluia. Mais attention, cela ne voudrait pas dire participer à ces bêtises. Hein? Non, 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 non. L'amour est collectif. Ah. C'est une vertu chrétienne très importante dans la mesure où elle est capable de préserver une personne des paroles trompeuse. Un Pierre nous donne encore l'exemple de Christ lui-même, comment il a été compatissant. 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 23. Il est écrit ceci. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Alléluia. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraités ne faisaient point de menaces, mais s'en remettaient à celui qui juge justement. Alléluia. Ça, c'est la compassion exprimée par Christ. Le troisième commandement positif qui fait l'objet de notre prédication ce soir, dit, pardonnez-vous. Pardonnez-vous les uns les autres. Alléluia. Pardonnez-vous. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous pouvons constater que le pardon ne se trouve qu'en Christ. Alléluia. Le pardon se trouve en Christ. Et le terme pardonner, qui a été traduit en grec, veut dire être plein de bonne grâce ou accorder gracieusement comme une faveur. Alléluia. Et c'est le terme charizomenoi, qui signifie être plein de bonne grâce ou accorder gracieusement comme une faveur. Alors, quelle est la raison de ce commandement positif? C'est que Dieu, en Christ, nous a pardonné. Et nous devons aussi suivre son bon exemple. Chaque chrétien se doit d'être un imitateur de Dieu. Alléluia. Éphésiens 5, verset 1. Nous lisons. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alléluia. Donc si notre Père nous a pardonnés en Christ, et si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons imiter notre Père. Vous savez, les enfants imitent leurs parents. Tout ce monde qu'on voit ici avec la barbe sous le nez, les Michel, les Josias et d'autres, Tombeau, c'était leur modèle. Hein? Et lui, il devait prêcher, il met sa cravate. Et, allez, comment ça fait chanter? Et nous étions là comme ces sujets. Imiter. Le frère Tombeau, c'était le top modèle. Le top des tops. Mais je ne sais pas, les enfants d'aujourd'hui, ils sont dans quelle dimension? Mais toute la génération de Missé, José, qu'on sort là, Tombeau était leur modèle. Et il le faisait chaque fois, il met son pantalon, il met sa chemise, il met la cravate. Et il avait aussi sa chair. Puisqu'après avoir fait chanter, il devait prêcher. J'espère que tu continueras jusqu'au jour où le Seigneur viendra. Ah. Imiter. Si notre Père nous a pardonné en Christ, nous aussi, nous devons imiter notre Père. Pardonnez-vous. L'inverse, c'est le refus de pardonner alors que la recommandation est ici. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mais en réalité, nous sommes au bord du terrain. Nous jouons dans un autre système de jeu et nous pratiquons des habitudes de l'enfer. Frères et sœurs, Dieu nous offre un plein pardon. Il n'y a pas de « oh, oh, non ». Dieu nous offre un plein pardon. Alléluia. Il le fait d'une manière qui prend
très au sérieux les blessures et les dommages provoqués par nos manquements et nos péchés vis-à-vis de lui, Dieu. Dieu, tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, quel dommage. Quand il regarde, mais attendez, j'ai envoyé mon fils pour ce genre, mais il ne comprend toujours pas. Il continue à creuser des citernes et abandonnant la source de l'eau vive. Ce n'est donc pas un pardon à bas prix, ni un pardon facile que Dieu nous propose. Alléluia. Ce n'est pas un pardon à bas prix. Ça a coûté à son fils. Déshabillé, malmené. On a craché sur lui. On l'a traité de Belzébul. Traité de Belzébul. Des démons, tout ce que vous voulez. Mais tout cela, à la fin, il dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Voyez-vous? Alors maintenant, mon frère, ma soeur, quel est ce problème qui fait que, vous savez, ça je peux le dire facilement, on avait une personne ici, vous réglez un problème aujourd'hui. 6 mois après, on va encore t'appeler pour le même problème. Une année après, on va encore t'appeler pour le même problème. Ah! Mais la fois passée, on n'a pas arrangé. Alors après, tellement que ça me saoulait, je dis à mon alter ego là-bas, dit chef, si tu veux continuer à y aller, tu peux y aller seul, moi, je n'y vais plus. C'est fini ça. Alors, moi, quand je tourne les talons, c'est parfois aussi difficile. Je dis, c'est fini ça. On nous prend comme des imbéciles ou quoi? Vous réglez la question? Mais on te raconte l'histoire de 1980. Ah! Mais cette affaire était censé régler depuis longtemps. On s'est réunis la fois passée avec tel. Alors, qu'est-ce qui fait encore qu'aujourd'hui, on doit encore se réunir pour le même problème? C'est que on n'a jamais pardonné puisque la rancune est toujours là. Alléluia. Alors, quand vous regardez la personne vous parlant, mais vous sentez que ça brûle au-dedans d'elle. C'est du parfum, hein? Vous sentez ça? C'est pas possible. Jusqu'où? Alors que Dieu ne nous offre pas un pardon à bas prix. Non, monsieur, Dieu considère toutes les offenses, toutes les injures. Mais après, il dit, oh Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Alléluia. Redisons-le. Aucun d'entre nous n'est parfait. Nous sommes constamment en train d'offenser Dieu. Toujours. Toujours. Parce que quand il dit, hein, quand bien même tu n'as pas encore ouvert la bouche, il sait ce que tu vas prononcer. Donc, nous l'offensons seconde, minute, heure, jour, semaine, année, mois. Refus de pardonner. Le manque de pardon dans le cœur du chrétien est un obstacle important dans ses prières. Un grief quelconque, une rancune, une racine plutôt d'amertume, peut-être même la haine pour quelqu'un bloque le chemin de la bénédiction. C'est une évidence. Prenons un peu Matthieu 6. Matthieu 6, versets 14 et 15. Vous y êtes? Nous lisons ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce que tout le monde a lu? Est-ce que nous sommes concernés? Vraiment? Mais alors, qu'est-ce qui fait que dans la pratique, nous nous comportons autrement? Qu'est-ce qui fait que dans la pratique, nous nous comportons autrement? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Alléluia. Quelque chose qui ne va pas en nous. La parole dit bien. Si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste aussi ne vous pardonnera pas. Alors maintenant, dans le Notre Père, on commence. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et à la fin là-bas, on dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous trompez qui? Vous trompez qui? Puisque, avant de commencer la prière, il a dit, ah Père, pardonne-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais l'Esprit est en train de dire, comme le prophète disait, tu vas à l'église, mais Madame Jones ne la pardonne pas. Alors, qu'est-ce qui se passe en nous? C'est pour cela que je disais dans mon introduction que prêcher ne consiste pas à parler aux gens de la parole, non. Prêcher doit consister à dire aux gens ce que la parole dit d'eux. Voici ce que la parole est en train de nous dire. Si nous ne pardonnons pas, Dieu aussi ne nous pardonnera pas. Est-ce que vous prenez ça comme de la rigolade? Ou bien, je ne sais pas. Soyons quand même conscients. Pour cette petite fille-là, comment elle s'appelle? La petite Mbaya. Elle écoute. OK, elle est là avec nous. Mais vous croyez? Elle réalise la portée de ce qui est en train d'être dit? Non, parce qu'elle est enfant. Elle est enfant. Mais alors, si toi, tu es vraiment adulte, à tes yeux, selon Dieu, comment il te regarde? Tu m'excuses, hein? Je suis un insensé. Alléluia. Je suis un vrai insensé et un enfant. Voilà. Puisque si j'étais adulte, je me comporterais comme un adulte. Mais comme je suis un enfant, donc on va mettre tout ce que tu fais sur le compte de ton ignorance en tant qu'enfant. Voilà. Alors maintenant, c'est à vous de choisir. Hein. Moi, bon, chacun sa part. Hein. Je ne sais pas. Hein. Enfant insensé. Pourquoi? Parce que il est ignorant. Il ne peut pas saisir ces choses. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le Seigneur nous exhorte à pardonner aux autres en tant que chrétiens. Pourquoi? Afin de nous assurer le renouvellement quotidien de la communion avec lui. On ne peut pas marcher en communion avec Dieu si on refuse de
pardonné. C'est une évidence. Nous voudrions faire un saut dans Matthieu 18 pour aller voir un peu le comportement de ces serviteurs impitoyables. Et nous allons voir comment le Seigneur conclut. Matthieu 18. Matthieu 18. Parabole du serviteur impitoyable. Verset 21 jusqu'au verset 35. Vous y êtes? Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à sept fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, suivez très bien, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il les saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'est passé. Alors, le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Regardons comment le Seigneur conclut. Lisons ensemble. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Vous avez vu la conclusion? Donc le Seigneur ici enseigne que le pardon doit être proportionnel à ce qu'on s'est fait pardonner. Donc le premier serviteur avait entièrement été pardonné, n'est-ce pas? Et il aurait dû à son tour tout pardonner. Mais vous voyez la méchanceté de l'être humain. Il a oublié ce que le Seigneur a fait. Lui, il voit, non. Lui, c'était combien? 1 denier? Combien? Bon, 100 deniers, voyez-vous? Lui, il voit son intérêt perso. Mais le maître, il a accepté d'effacer l'ardoise, de remettre toute la dette. Mais toi, tu sors de quelle planète? Tu as quel genre de cœur? Vraiment, le cœur de Pierre dont on parle. Alors la prière qui sera faite pour toi ce soir, que Dieu puisse te donner un cœur de chair. Alléluia. Puisque sans ce cœur de chair-là, tu auras le même comportement que ce serviteur-là. Alléluia. Être compatissant. Se mettre à la place de l'autre. Il est en train de te supplier comme toi tu as supplié ton maître. Et à ton tour, non, cœur de pierre. Je m'en fous. Il me doit. Il me doit. Et à qui veut t'entendre, tu racontes. Tu sais, l'autre jour, moi, c'est... calmons-nous. Toi, tu n'as jamais bénéficié d'une aide quelconque auprès d'une personne. Jamais. Voilà. Les premiers serviteurs avaient entièrement été pardonnés et il aurait dû à son tour tout pardonner aussi. Donc, mon frère, ma sœur, si tu es l'enfant de Dieu, écoute-moi bien, l'enfant de Dieu a eu tous ses péchés pardonnés par la foi en Jésus-Christ. Oui ou non? Alors, lorsque quelqu'un pêche contre lui, il doit donc être prêt à pardonner de tout son cœur. Le problème, c'est le cœur. Hein? Le cœur de l'homme qui est tortueux et méchant. Voyez-vous? Et les résultats de ce cœur, nous le voyons quand nous agissons. Pardonne à ton frère. Non, 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 ce qu'il m'a fait. Oh là là! Mais toi, quel genre de chrétien? Quel genre de chrétien? Tu dois être prêt à pardonner de tout ton cœur. Peu importe, alors, il est dit, hein, au début, quand Pierre lui pose la question, peu importe le nombre de fois où l'acte se reproduit selon Matthieu 18, versets 21 à 22. Ça va? Peu importe. Ah, mais oui, c'est toujours lui. Ah, il m'en kikine. Vraiment, je n'en peux plus. Aïe, 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 aïe. Alors, frère, cache-toi. Va demander la grâce de Dieu pour que tu puisses faire passer cette pilule-là. Je sais qu'elle est amère. Peut-être pour toi, l'épreuve de ta foi doit produire la patience, n'est-ce pas? Ah oui. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Mais tu pries tous les jours dans ton coin, Seigneur, accorde-moi la patience, il faut que je sois patient. Bon, voilà, il y a cette personne qui t'enquiquine chaque fois, dans les mêmes conditions. Eh bien, il faut que tu discernes, comme nous j'ai demandé la patience, n'est-ce pas? Mais c'est par cette sœur-là, c'est par ces frères-là que ça se passe. Alléluia. Alléluia. Ah. Donc, selon toi, cette patience sortira de nulle part et puis elle bam, tu deviens patient ou patiente. Hein? Ce n'est pas cet évangile-là que moi je prêche. Non, 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 non. Vous racontez, non, 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 mais vous savez, Dieu est bon. Mais non, 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 pas ça. Non, 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 non. C'est un hypocrite. Pas ça. Ça ne marche pas avec l'onction que j'ai reçue. Je n'ai pas reçu une onction de timidité. Non. Les choses doivent être dites, comme je disais à mon fils, c'est bien de raconter la réalité. Mais la réalité, quand elle est racontée, la manière de la raconter compte aussi. Alléluia. Alors, mes frères, il est important de comprendre que le pardon ne signifie pas qu'il faille sous-estimer le tort qui nous a été fait. Alléluia. C'est vrai. Vous savez, quand vous offensez quelqu'un, il ne faut pas commencer à dire, mais oui, mais, ah, mais et toi aussi, tu ne comprends pas l'humour. Non. Non, 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 non. Ça, vous êtes en train de ne pas se mettre à sa place. Comment lui a senti ce que toi, tu lui as dit. Toi, de ton côté, tu dis, mais oui, mais oui, mais Mais c'était de l'humour, non? Hein? Je n'ai pas voulu t'offenser. Non. Comprends. Si tu ne comprends pas que pour la personne, elle se sent offensée, vous serez toujours en désaccord. Comprends. Oui, mon frère, excuse-moi. Je pense que la prochaine fois, je ferai attention de ne pas me comporter de la sorte. Tout simplement. Donc, il ne s'agit pas de sous-estimer le tort qui nous a été fait si forcément c'est réconcilié. En pardonnant, mon frère, ma soeur, en pardonnant, écoute-moi bien, toi qui es là ce soir, en pardonnant, tu choisis d'acquitter la personne de la dette qu'elle te doit. Tu renonces à toute vengeance et tu choisis de ne pas lui imputer le tort qu'elle t'a fait. Mon frère, ma sœur, agir autrement n'est pas digne d'un disciple du Seigneur. Alléluia. Éphésiens 5, 1 nous a dit d'être des imitateurs. Nous imitons qui? Notre Père. Alléluia. La manière dont lui agit, nous aussi, nous devons l'imiter. Alléluia. Nous devons l'imiter, c'est une obligation. Refus de pardonner, c'est un obstacle sérieux à l'exaucement de tes prières. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous a donné une merveilleuse promesse au sujet de la prière. Prenons Marc. Marc 11. Marc 11, versets 23 à 24. Je veux que tout le monde soit dans sa Bible. J'attends. Marc 11, versets 23 à 24. Vous y êtes? Allez, je lis. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Versets 23 et 24, « Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi de la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Quelle merveilleuse promesse, n'est-ce pas? Mais regardez, le Seigneur ajoute, au verset 25 et 26, regardez ce que le Seigneur ajoute. Lisons. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Voyez-vous? Donc, comme pour imposer une condition. Alléluia. Une condition. Le verset 23, 24, merveilleuse promesse. Mais attention, pour que cette promesse se réalise, il y a une condition. Alléluia. Il y a une condition. Il est donc évident que tout chrétien qui essaie de prier en conservant la rancune, une racine d'amertume dans son cœur, découvre finalement que ses propres péchés élève une épaisse muraille entre lui et Dieu. Et cette muraille ne peut être écartée sans qu'il ait pardonné lui-même son prochain. Alléluia. Une muraille. Vous êtes là tout le temps. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Tout le temps. Mais quand on cherche les effets de tes jeûnes et prières, zéro. Le problème, il est là.
Marc 11, verset 23 jusqu'à 26.
La promesse est donnée, oui, mais il y a une condition. Alléluia. Il y a une condition.
Évidemment, mon frère, ma soeur, tu peux choisir de ne pas pardonner.
Ah, libre arbitre, hein, ma soeur. Libre arbitre.
Tu peux choisir de ne pas pardonner, mais il vaut la peine de réfléchir d'abord aux conséquences.
Alléluia. Ça qui est important.
Il vaut la peine de réfléchir d'abord aux conséquences. Si tu réfléchis aux conséquences, tu vas t'asseoir deux fois pour renoncer à ne pas pardonner.
Refus de pardonner. Mon frère, ma soeur, ne nous rébellons pas à la volonté de Dieu. Amen. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu nous demande de nous pardonner réciproquement comme lui nous pardonne. Alléluia. C'est ça sa volonté. Il n'y en a pas une autre en substitution. Moi, oh, maintenant, vous savez, mais vous ne comprenez pas. Non. Alors là, imagine ce que son fils a subi. Dommage, blessure, toutes sortes, humiliation. Et alors quoi? Quand on prend la balance, tu trouves que toi, ton offense est telle que... Hein? C'est ça? C'est ça?
Ah, oh mais non, vous savez, tu es là en non! Pense toujours à Christ, le modèle.
Alléluia.
Pense à Christ qui est le modèle. Ce qu'il a subi. Mais il nous a remis cette dette. Et c'est un pardon qui n'est pas soldé. Ça a dû coûter.
Alléluia. Vous savez, la nature même s'est cachée, hein?
La nature s'est cachée tellement que c'était ignoble. Ce n'était pas possible.
Le créateur du ciel et de la terre, qu'on est en train de faire comme ça.
Alors maintenant, toi, l'offense que tu as subie par rapport à ton créateur, y a-t-il un rapport? Je ne sais pas. Dans ton esprit, oui. Mais moi, en parlant comme ça, je me dis, pauvre Albert, sois humble, répands-toi. Répands-toi parce que non, il n'y a pas photo. Faisons, mon frère, ma soeur, ce que Dieu nous dit de faire, ce qu'il nous demande de faire. Il est écrit ceci, Éphésiens 5. Verset 6 dit, Éphésiens 5, verset 6, dit ceci, vous y êtes, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion.
Alléluia. Alléluia. Donc que personne ne vienne te séduire. Oh non, ma sœur, ne pardonne pas. Non, mon frère, ne pardonne pas. Tu vois cette offense-là, mais non. Mais tu vois que c'est ta personne qui a été vraiment mise en jeu là. Non, faut pas. C'est une séduction du diable. Alléluia. Et la Bible dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et dans Colossiens 3, verset 6, nous trouvons Colossiens 3, verset 6. Pour bien comprendre, commençons au verset 5. Le verset 5 dit ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvaises désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Alléluia. On est ensemble? Parce que je disais, mes frères et sœurs, qu'on ne se rebelle pas. Faisons ce que Dieu nous demande de faire, n'est-ce pas? Entendre, reconnaître et agir conformément à ce que tu as entendu, à ce que tu as reconnu comme vrai. Alléluia. Et ça fera de toi un vrai gentleman fils de Dieu ou gentlewoman fille de Dieu. Alléluia. Les fils de la rébellion désobéissent conformément à leur nature. Alléluia. Alléluia. Les fils de la rébellion désobéissent conformément à leur nature. Mais les fils de la rédemption sont appelés à s'évertuer à l'obéissance. Alléluia. Ça, c'est le fils de la rédemption. Ils obéissent à ce que leur papa dit. Mon frère, ma sœur, si tu veux faire des exploits dans ta pratique de la prière, tu dois apprendre à pardonner. Même si on t'a traîné dans la boue, même si tu sens que, oh, mais quand même, je suis quand même. Oui, tu es quand même. Mais alors, regarde à Christ. Et Christ, il est quoi? Ton chiffon? Ta serviette, Christ? Non. C'est vrai, hein? Tu peux te mettre en colère, mais je ne permets pas. Je ne suis pas là pour donner des permissions. Mais la Bible nous dit que ta colère n'est. Hein? Ah! Tu peux te mettre en. Comment tu. Mais attention, que tu ne dormes pas avec cette affaire. Alléluia. Il faut se calmer. Alors, ce soir, je pense que nous allons prendre un bon engagement. On a vu, premier obstacle, relations dans le couple, les fausses relations dans le couple entravent l'exaucement de la prière. Et dans les relations entre les hommes et les femmes, nous avons vu des frères qui sont offensés ou des sœurs qui sont offensées, non réconciliés. Il y a des problèmes sérieux. Nous avons parlé longuement de la réconciliation la fois passée. Et ce soir, Dieu nous donne encore un troisième obstacle en ce qui concerne l'exaucement de nos prières. Vous savez, ce que vous devez faire, vous devez le faire. Ce que Dieu doit faire, il le fera. C'est-à-dire, faisons ce que Dieu nous demande de faire, et le reste, ça le regarde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux.